Bonjour et bienvenue dans Comics Weekly, je suis Steve.
Et moi, Mister, on est Bunny.
Et donc vous venez d'entendre notre nouveau générique pour Comics Weekly, un son en provenance directe des États-Unis puisque nous parlons des sorties VO.
On enregistre aux États-Unis, bien sûr, toutes les semaines.
Oui, on fait le déplacement puisqu'on enregistre le même jour que la fin du Comic City et donc on a fait le déplacement direct.
Bah oui, avec notre machine.
Notre machine à téléporter.
Notre machine à déplacement direct.
Voilà.
Faut qu'on trouve un nom, peut-être, pour la machine.
Non, mais c'est très bien comme nom de machine. Machine à déplacement direct, on brevette
c'est
ça
rare,
et puis
en
c'est
plus,
bon.
Hein. Voilà. C'est rare, parce que, voilà.
On aurait pu appeler ça téléportation et faire simple, mais on s'est dit, on va pas faire comme tout le monde. Donc.
Non. Ce serait trop bête.
Au programme de ce quatrième numéro du DC
ah oui,
et du
la
Marvel.
La double review de Batman
ouais.
700. Et d'ailleurs, je te ferai remarquer que c'est notre première double review sur du DC, enfin.
Oui. Et on avait pensé au début à faire Fame numéro 1 spécial Lady Gaga de Blue Water, mais on l'a pas reçu à temps.
Bah donc, ouais, c'est vraiment terrible, quoi. Vraiment, on avait envie de faire ça en double review. Ça avait l'air tellement bien, en plus.
Ouais, excellent.
Parce que moi, la vie de Lady Gaga, en plus racontée par Blue Water, c'était un rêve qui se concrétisait, quoi, tu vois, sur papier.
La suite des Female Force et compagnie, quoi.
Et oui, et de l'hommage à Michael Jackson, et... Bah voilà, malheureusement, on l'a pas eu à temps, alors on était obligé de se rabattre sur Batman 700.
Ouais, c'est vraiment par dépit. Hein.
C'est vraiment par dépit, d'autant qu'il est pas forcément mieux.
On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc du DC, du Marvel et aussi du Icon, cette
oui,
fois-ci encore.
Avec Nemesis, notre ami Nemesis.
Que tu as lu pour nous et...
oui, que j'ai lu pour vous, attention, hein, je me suis sacrifié là sur le coup.
Grand bien te fasse, puisque moi je n'aurais pas lu ça.
Voilà.
Ok, avant toute chose, on va faire quelques petites news, comme toujours, et on commence les news de cette semaine avec un teaser pour Shadowland numéro 1. Un teaser très énigmatique qui n'a pas encore été commenté au moment où on enregistre ce podcast. Le teaser, c'est juste une image de Daredevil avec un rictus plutôt maléfique, et au-dessus, oui, écrit « The Birth of the Marvel Universe Greatest Villain ». Donc, en français, pour ceux qui ne comprendraient pas, la naissance du plus grand vilain de l'univers Marvel.
Bah, c'est ce que je te disais au fait quand on a annoncé les différents tie-ins à Shadowland. Je te disais que Daredevil dans les previews avait l'air un petit peu bizarre, plus lui-même. Donc j'ai l'impression qu'il va peut-être péter un plomb, d'autant qu'il dirige la main maintenant, comme les lecteurs VO le savent.
Ouais. Donc là, en fait, j'attends vraiment ça avec impatience. Juste pour rappel, la mini-série qui est en 5, Shadowland, sera écrite par Andy Diggle, sera écrite avec une jolie liaison dégueulasse, hein, sera écrite par Andy Diggle et dessinée et ancrée apparemment par Billy Tan.
D'accord.
Voilà. Donc c'est en 5 parties, comme je le disais, et moi c'est vraiment le crossover que j'attends, quoi.
Moi aussi, puisque en ce moment, chez Marvel, on peut pas dire que ce soit... Enfin, en ce qui nous concerne, c'est pas l'euphorie énorme, quoi. The Age of Heroes, etc.
Avengers qui m'avait plutôt intéressé, Secret Avengers plutôt déçu. Tu vas nous parler tout à l'heure d'Avengers Academy, on verra bien.
Ouais, c'est sympa. Enfin, vous verrez tout à l'heure, mais c'était sympa.
Donc voilà, moi ça j'ai pas encore eu le temps de le lire d'ailleurs. Donc moi j'attends vraiment Shadowland avec impatience. Là où ça m'inquiète un petit peu, c'est que transformer Daredevil en vilain, j'y crois qu'à moitié parce que. C'est quand même une licence qui vend, ça m'étonnerait.
Ça a déjà plus ou moins été fait, il me semble, en plus. Il y avait un moment où il pétait un peu les plombs, il me semble, non? Dans les années 90.
Ouais, Over the Edge. C'était à l'époque dans Marvel Edge, et ça s'appelait, je crois, Over the Edge. Et il pétait les plombs totalement. Mais je crois qu'il y avait le retour aussi d'un Daredevil avec son tout premier costume. Ouais, le costume jaune.
Ouais. Il se retrouvait face au Punisher et à Nick Fury, je crois, d'ailleurs, dans ces épisodes.
Ouais, c'est sûrement possible, ouais. Je m'en rappelle plus très bien de ça.
Voilà.
Donc, moi, ça me fait peur parce que soit on change drastiquement le personnage, et je suis pas sûr que le personnage continue de vendre. D'ailleurs, honnêtement, une série sur Daredevil en tant que vilain réel, je suis pas sûr que ça aille très très loin. Ça voudrait dire donc peut-être un arrêt de la série Daredevil. Mais ça me paraît un peu improbable vu que, enfin, c'est quand même
bien alors, ça devient le nouveau gros super vilain de l'univers Marvel, comme l'annonce le teaser. Et là, franchement, ce serait un super tour de force. Et ça peut être vraiment bien, quoi. Si ça tombe, il peut être vraiment bon en super vilain.
Ouais, mais je vois mal qu'il y ait une continuation de la série régulière, honnêtement.
Ah bah ce sera, ça va peut-être changer, non, ils vont peut-être nous faire un espèce de relaunch Evil Daredevil ou Dark Daredevil ou
Daredevil.
Dark Devil existe déjà dans Spider-Girl
Non,
malheureusement, mais
malheureusement, t'as pas entendu ma blague, c'était Daredevil.
ah oui.
Ouais, bon, c'est un peu pourri, je sais.
Ouais. Là, j'ai, oui, j'allais dire heureusement que je l'ai pas loupé celle-là parce que ça aurait été vraiment dommage.
Voilà, je la refais deux fois comme ça.
Voilà.
C'est l'habitude chez nous, on réutilise
Le
les
2
blagues
en 1,
toujours
le
deux
2
fois.
en 1, le service après-vente, directement avec la vente en plus.
Donc voilà, donc Shadowland, vraiment, on attend impatiemment la sortie de ce premier numéro, et de toute façon, il y a de fortes chances que ce se retrouve en double review au moment où ça sortira. On passe à la suite, Matt
Avec,
Fraction.
oui, Matt Fraction et Pascal Ferry qui arrivent enfin sur Thor, puisque Matt Fraction devait arriver sur Thor il y a quelques mois déjà, mais
Il
ça a été
devait
un petit
prendre
peu
au
délayé, un
600,
petit peu retardé.
ouais, il devait prendre au 611 de mémoire. Je
Voilà,
sais pas
et
trop.
bah, il arrive, là c'est officiel, à partir du numéro 615. Donc si vous voulez lire du Matt Fraction sur Thor, c'est à partir du numéro 615. Et donc voilà, donc Matt Fraction qu'on avait eu sur les mini-séries Thor, qui était vraiment pas
Ouais,
mal.
les one shot Thor Man of War je sais plus quoi.
Ouais, il y en avait eu quelques-uns comme
Il y en
ça.
avait
Il y en a...
3 ou 4 qui étaient parus chez. Ils étaient tous sortis à l'époque chez Panini.
Voilà. Et donc bah, on est content de le voir enfin débarquer sur Thor. C'est peut-être un personnage qu'il va réussir à porter comme il a pu porter Iron Man depuis 2 ans déjà maintenant.
Il avait aussi contribué au bon retour d'Iron Fist avec Brubaker, et puis ensuite en solo pendant le tournoi. Enfin voilà, enfin, c'était vraiment bien. Il est très bon, je trouve, sur les personnages solo, beaucoup plus que sur les équipes comme les X-Men par exemple. On verra bien ce
Comme
que ça va
beaucoup de monde
donner.
d'ailleurs sur X-Men, malheureusement.
Et bam, en passant.
Voilà.
Petit coup de pied à la fourmilière. On passe maintenant à une news sur Spider-Man avec l'annonce du prochain gros arc
Voilà.
après One Moment in Time
Oui, de Joe
par
Quesada
Joe
et
Quesada, voilà, et Paolo Sicuera.
Voilà.
Ça s'appellera Origin of the Species. C'est Amazing Spider-Man numéro 642 à 647, donc en 6 parties, pardon. Ce sera scénarisé par Mark Waid avec au dessin
Paul
Paul
Azaceta.
Azaceta, voilà, merci.
On a déjà vu dans Amazing récemment.
Le pitch, grosso modo, ce sera le bébé de Lily et Norman. Et tout le monde est à sa poursuite. Tous les personnages qu'on a pu voir les derniers mois, comme le Lézard, Vulture, Sandman, Electro, Rhino et encore plein d'autres, je ne vais pas tous vous les citer, vont essayer de se lancer à la poursuite du bébé pour le récupérer.
Ce qui est surprenant.
Apparemment sous les ordres de Norman. À ce que
Ah,
j'ai
sous
cru
les ordres normales, d'ailleurs.
comprendre, parce qu'il aurait toujours l'influence à travers sa prison. Mais,
D'accord, oui, parce que je comprenais pas comment tous ces super vilains étaient au courant de la naissance prochaine de ce bébé.
J'ai lu l'interview de Mark Waid, je l'ai lu en très très rapide, en diagonale, donc c'est à peu près ce que j'ai compris en lisant ça très rapidement et en sautant quelques lignes.
Donc c'est aussi le retour d'Octopus qu'on a vu en VF
Oui.
justement avec l'épisode 600 et qui là revient enfin.
Voilà. Et elle se lance aussi à la poursuite du bébé Spider-Man pour essayer de le protéger un petit peu et de mettre tout ça. Et aussi Gabriel, le fils de Gwen Stacy et de
Ah, le
Norman.
fameux, lui, tu vois, je t'avais dit qu'il allait revenir, qu'on allait entendre parler. Gabriel Stacy, donc le fils de Norman Osborn et Gwen Stacy, qui devrait s'appeler d'ailleurs Gabriel Osborn, mais bon.
Mais oui, il s'appelle Gabriel.
Ouais, enfin voilà, on va l'appeler Gabe. Et qui avait une sœur d'ailleurs, hein, Sarah Stacy, qui avait la même tête que Gwen, quoi, en fait, en gros.
Donc voilà, tout ce petit monde va être à la poursuite du bébé. Donc moi, je sais pas, en plus écrit par Mark Waid, moi j'attends de voir, ça me donne envie.
Ah, c'est sûr que sur le pool actuel de scénaristes, c'est peut-être mon préféré quand même.
Faudra voir
Donc,
la gestion ensuite qui va être faite
bah, il faudrait
après
surtout voir
l'arc
ce qui se
actuel.
passe, ce qui va se passer après One Moment in
Et puis
Time,
One
puisque
Moment in Time, ouais. En tout cas, apparemment, selon lui, Peter Parker et Spider-Man auraient pris des décisions
ils vont lui percer son univers à tout jamais,
En
comme
disant,
de tout
non, en
le
tout cas, des
monde.
décisions un petit peu difficiles à prendre et qu'il a décidé de prendre et qu'il va falloir qu'il gère avec ça un petit peu aussi. Et en plus, avec cette arrivée du bébé et tout le bazar que ça va provoquer, il va être dans un sale état. Il y
D'accord.
aurait aussi apparemment le premier rendez-vous entre Spider-Man et Carly au sein de cet
Ah,
arc.
enfin, c'est vrai que ça fait le premier rendez-vous avec ça fait depuis 2 ans et demi maintenant, ça fera 2 ans et demi au moins que. Bon, enfin bref, ok, d'accord.
Voilà. En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'attends de voir, on verra bien.
Ouais, non, mais ça a l'air sympa, effectivement. C'est surtout One Moment in Time qui me fait peur, donc.
Non, puis bon, c'est Mark Waid, comme je disais. Voilà, c'est quand même un gage normalement de qualité.
De qualité, ouais, c'est vrai.
Ensuite, un
Eh bien,
crossover.
Un crossover de Christos Gage et Jeff Parker. Et pourquoi ces deux-là? Parce que c'est un crossover entre Thunderbolts et Avengers Academy. Avengers Academy dont je vais parler tout à l'heure puisque je vais vous parler du premier numéro d'Avengers Academy. Avengers Academy qui est sorti, mesdames, messieurs.
Oh, la
Voilà.
voix de Nikos.
Nikos Aliagas. Oui. Donc voilà, donc bah une bonne nouvelle puisque les deux séries m'ont l'air assez sympa. Avengers Academy peut-être un peu plus sympa que Thunderbolts, bien que Thunderbolts je trouvais ça intéressant. Donc voilà, donc un
C'est un
crossover
petit peu le même concept, quoi. D'un côté, c'est des jeunes, de l'autre côté, c'est des vilains
un petit peu le
en
même
rémission, donc.
concept et même peut-être plus encore que tu ne le crois, Steve. Je ne dirai pas pourquoi. Voilà, donc faudra lire Avengers Academy numéro 1 pour pour comprendre pourquoi, mais en tout cas ça démarre en août ce crossover.
Ah, donc c'est vraiment très très bientôt.
Voilà.
Une rumeur dont tu as entendu parler, tu vas nous faire profiter maintenant.
Bah une rumeur, une petite rumeur en fait, c'est Rich Johnson qui nous annonce que peut-être Fable pourrait avoir encore un nouveau spin-off.
Rick Johnson qu'on a sur IGN
Voilà.
Comics.
Et donc on en saura plus en fait à San Diego. Donc il y a de fortes à parier qu'effectivement il y ait bien un nouveau spin-off. Et toi, tu as une petite idée alors de quoi ça pourrait être?
Moi, je pencherais pour Cinderella qui vient de finir sa mini-série en 6,
D'accord.
qui s'appelait From Fibletown with the Love, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, ça va être quelque chose comme ça. Et comme c'est un personnage dont tout le monde attendait un spin-off, j'ai pas vérifié les chiffres. Donc, si ça a bien marché, il se peut que ce soit une série régulière sur elle. Maintenant, ça peut être totalement sur quelqu'un d'autre. Moi, je pencherais pour Cinderella, même si elle a déjà eu une mini en 6.
Ouais, d'accord. Moi, je pensais à un truc tout con, du style Big Wolf, Big Wolf, ou enfin,
Ah,
tu vois.
Big B, ouais, pourquoi pas.
Big B, tu vois, j'ai un truc un peu plus avec uniquement des enquêtes, quoi. Tu vois, un truc un petit peu plus policier. Je sais pas. À
Ouais,
voir.
pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas. Ça reviendrait un petit peu au style des premiers numéros.
Voilà, ouais, parce que
Ouais,
bon,
ah ouais.
à force de brasser énormément, énormément de personnages, on va peut-être en parler de Fable prochainement dans un spécial. Bah voilà quoi, il se passe énormément de choses et du coup un personnage comme lui a de moins en moins le spoilight quoi. Le spotlight plutôt. Le spoilight. Le spoilight. Nous aurons le spoilight aujourd'hui, c'est-à-dire le spoiler léger. Du moins on va
Après
essayer.
la machine à voyagement direct, ou je sais plus comment on a dit, mais
Oui, voilà. Et maintenant il y a ça, quoi, le spotlight. Copyrighté, Comic City, Comics Weekly même.
Dernière news avant de passer à la double review. Miller refait parler de lui. Franck
Oui,
Miller.
Frank Miller refait parler de lui, mais rassure-toi, hein, c'est en bien. Enfin, hein, j'allais dire pour une fois, mais non. Enfin, bon, allez, Frank Miller. Donc refait parler de lui, il va faire la préquelle à 300. Ça s'appellera Terre.
299.
Non, ça s'appellera pas 299 malheureusement. Ça
Désolé.
s'appellera Xerxes. Et Xerxes, alors me semble-t-il, donc déjà, l'histoire sera en 6 parties. Et ça, c'est au fait, ça parlera du roi des Perses que les Spartiates du coup affrontent dans 300.
D'accord.
Et ça se passe donc avant, donc on verra un petit peu l'histoire de ce roi dont le nom est Xerxès.
Très bien. Bon,
Voilà. Et
bah,
donc
voilà. C'est...
il y a fort à parier que si ça rencontre le succès de 300, on aura sans doute une adaptation cinématographique. Bon, affaire à suivre donc, hein,
C'est prévu
mais
pour quand, ça?
C'est prévu pour 2011, donc il n'y a pas de mois encore
D'accord.
annoncé.
Ok. Espérons qu'il
Voilà.
sera pas trop à la traîne, comme il a pu l'être sur All-Star Batman and Robin.
Donc on a déjà une image du fameux Xerxès, si tu veux, je te fournirai le lien et tu pourras le mettre en lien sur Comics Weekly.
Bah bien sûr, comme je mettrai le teaser de Shadowland, l'image du teaser de Shadowland. Bien, on passe maintenant à la double review, et comme on le disait en début, c'est Lady Gaga. Non, pardon, c'est
Oui.
Batman 700.
Voilà.
Batman 700, donc au scénario, le retour de Grant Morrison sur Batman, et
Enfin oui, il l'a pas quitté puisqu'il y a eu Batman et Robin,
oui, enfin
mais
sur la série
pour la
Batman.
série, oui, le titre
Voilà.
Batman, effectivement, tu fais bien de le dire.
Et au niveau des dessinateurs, alors on en a beaucoup, puisque l'histoire est divisée en 4 parties. Pour la première partie, c'est Tony Daniel. La deuxième partie, Frank Quitely, ancré par Scott Hanna. La troisième, Andy Kubert. Et la dernière partie est par David Finch, ancré par Richard Friend. Voilà. Donc les parties, c'est simple, c'est simplement
Des parties dans le temps, en fait.
Voilà, exactement. C'est chercher les mots, merci.
C'est réparti dans le temps, donc...
On a yesterday, today, tomorrow,
and tomorrow, en fait. Voilà. Encore plus tard, quoi. C'est-à-dire que passé, présent, futur, et encore plus loin dans le futur. Vers l'infini et même au-delà. Ouais.
Bien, alors, en fait, c'est un cas... J'ai eu le temps, parce que je l'ai lu déjà depuis 2 jours... Et j'ai eu le temps d'y repenser un petit peu. Je suis un peu moins mécontent que la première lecture, enfin, même si je l'ai lu qu'une fois, en tout cas, ça a eu un peu plus le temps de mûrir. Juste en fermant le comic, j'étais bof. Là, c'est un peu mieux. L'histoire est pas trop mal, même s'il y a des choses que je n'apprécie pas, en tout cas.
Le pitch, vraiment, grosso modo, c'est une enquête sur la disparition d'un professeur.
Le professeur, j'ai noté son nom quelque part, Carter Nichols, voilà.
Voilà, qui, je tiens à le préciser, peut-être que tu le sais, existe dans les comics de Batman. C'est un vieux personnage, encore une fois, des années 50, que Morrison nous ressort pour le réintégrer à la continuité actuelle. Il avait fait ça avec Batmeat, par exemple, dans Batman Rip.
Mais de toute façon, c'est un spécialiste de la continuité de Batman, donc à chaque fois, il va chercher des trucs...
Des références un peu obscures quand même. Mais voilà, donc il y a la disparition de ce professeur qui meurt dans des circonstances un peu particulières, et Batman va faire une enquête, et une enquête qui va se dérouler, c'est un peu bizarre, donc dans le passé, dans le présent, dans le futur, un petit peu à toutes les époques, en fait.
Techniquement, l'enquête porte pas réellement sur ça, c'est chaque fois un cas qui l'amène avec de retour à ça, parce que finalement, l'enquête... Il y a le seul lien entre les différentes époques, c'est ce professeur Carter Nichols qu'on voit à plusieurs moments dans le temps, cette Maybe machine qu'il a construite.
Ah, c'est comme ma machine à moi là.
Voilà. Des déplacements directs, c'était ça.
Oui.
Voilà.
Et
surtout le Joker's Jokebook, le recueil de blagues du Joker que l'on retrouve à chaque fois d'ailleurs.
Exactement. Oui.
Et c'est presque plus ça pour moi qui est le lien que le professeur en lui-même.
C'est vrai qu'il y a aussi cet élément-là. Moi, grosso modo, en fait, cette espèce de scénario, déjà, m'a bien plus fait penser à ce que faisait Morrison sur Batman, avec Batman Rip, etc., que ce qu'il a fait récemment avec Batman et Robin. Batman et Robin, c'est bien plus ancré dans la continuité actuelle, présente. C'est bien plus des histoires terre-à-terre où Batman et Robin, la nouvelle équipe, affrontent des super vilains.
C'est beaucoup plus lisible aussi sans se prendre la tête. Quoi.
Là, franchement, c'est du Grant Morrison sur Batman qui me fait penser un petit peu à du Lost. C'est-à-dire que dans Lost, t'as toujours des machines incroyables, des voyages dans le temps, des espèces de références obscures à différentes choses. Et au fait, il y a une accumulation de mystères au fait avec Morrison qui est un petit peu énervante parce qu'on se dit qu'à la fin, soit on n'aura pas d'explication, soit on devra tirer ses propres conclusions et dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué. Soit il y aura une explication, mais une explication qui risque d'être un petit peu vaseuse et un petit peu décevante au final, quoi. Parce qu'il y a vraiment énormément de mystères, quoi, qui s'accumulent depuis Batman Rip. Déjà Batman Rip, le final pétard mouillé un petit peu pour moi.
Pour moi aussi.
Voilà. Donc là, voilà, Morrison repart un petit peu là-dessus. J'espère que toute la série Batman ne sera pas uniquement que des histoires comme ça.
Il est là jusqu'au moins au 702, puisque pour le moment, j'ai vu les sollicitations jusqu'au 702, et c'est au moins lui jusqu'au 702.
J'ai eu peur. J'ai cru que t'allais me dire qu'il est là jusqu'au moins aussi au 800.
Mais je sais pas. Je crois qu'il a repris le titre de façon régulière, mais je voudrais pas trop m'avancer tant qu'on n'a pas vu pour le 703.
Qu'il ait repris ou pas, ça peut être bon. Mais le problème, c'est que si c'est que des intrigues comme ça qui font appel à de la continuité obscure de Batman et à des mystères, on comprend pas tout, quoi. Tu sais, on voit pas où est-ce qu'il veut en venir, en fait. Quand on a fini l'histoire, on sait pas trop quel était le fin mot de l'histoire. Est-ce que ça va continuer?
Ça me gêne, hein. Personnellement, je n'aime pas Morrison sur Batman. Ça me plaît pas du tout ce qu'il écrit. Donc, ça me gêne un peu que ce soit lui qui ait repris. Détective Comics, comme Greg Rucka est parti, faut voir ce que donne le nouveau scénariste. On verra bien. Il y a des choses, moi, que j'ai bien aimé et des choses que j'ai moins aimé. L'histoire à travers le temps, le lien avec le jokebook, bon, pourquoi pas, ce que je n'ai pas trop apprécié, autre chose que j'ai bien aimé, on voit donc Batman à plusieurs moments, on voit le premier Batman, c'est-à-dire Bruce Wayne, avec Robin. Ensuite, on voit...
Ouais, on se rend même compte, d'ailleurs, que c'est l'époque kitsch, on va dire.
Ah bah, l'époque totalement de la série, puisque tous les vilains font alliance. On a Catwoman, on a Joker, on a Riddler et le pingouin.
On voit que c'est près Infinite Crisis, quoi, en fait.
Ouais. Non, puis même, c'est vraiment l'aspect de la série des années 70 avec Adam West, hein, vraiment.
Crisis on Infinite Earth, d'ailleurs, je me gourde...
Ouais. Oui, effectivement, ouais. Je t'ai même pas relevé, en plus, j'ai même pas fait attention. Après, donc, il y a le passage du présent avec donc Dick sous le masque et Damian sous le masque de Robin.
Oui. D'ailleurs, j'ai sur le moment, j'ai pas tilté dès le début, quoi. Je me suis dit c'est Bruce et je me suis dit ben non, évidemment c'est Dick, parce que j'avais complètement oublié. Quelquefois, on en oublie même que c'est Dick, quoi, sous le costume.
Ensuite, on a dans le futur et j'y reviendrai ensuite parce que c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Et on a encore plus dans le futur avec Batman Beyond. Et même encore après, on voit des Batman du encore plus futur.
Ouais, enfin bon, après voilà.
J'ai pas été vérifié, mais je pense que c'est sûrement des Elseworlds ou des choses comme ça qu'il a adapté, ou des vieilles histoires où on avait déjà vu ce genre de Batman qu'il a fait repasser par-ci par-là.
Ouais, comme tu dis, il y a peut-être le Batman de Miller, je sais pas, en fait, j'arrive pas à distinguer
non.
Nana. Avec les flingues, là.
Avec les flingues?
Ouais, il y a une espèce de Batman tout à la fin, en fait, après le End Tomorrow, où on voit le Batman de
Beyond, ouais.
Batman Beyond, sur la page d'après, on voit un Batman avec un flingue, avec un petit Robin ou une petite Robin, je sais pas si c'est un gars ou une meuf.
C'est possible que ce soit ça.
Ça ressemble plus à un mec, mais c'est difficile à dire, tu vois, parce que c'est vraiment un personnage très jeune.
Alors, maintenant, j'arrive au point négatif de mon côté.
Vas-y.
Déjà, c'est toujours face au Joker. Quoi qu'il arrive, c'est toujours face au Joker. Il n'y a pas d'autre ennemi. Alors, je sais que c'est l'ennemi emblématique pour beaucoup, mais ça m'énerve que ce soit toujours face au Joker.
Ouais. Bah, c'est un petit peu la mythologie, quoi. Tu vois, c'est un continuel renouvellement.
Il y a d'autres grands ennemis de Batman qui pourraient être là, comme Double Face, par exemple. C'est un des gros autres grands ennemis, et personnellement, que ce soit toujours le Joker me gêne. Bon, ça, c'est encore qu'un tout petit truc. La chose qui me gêne le plus, c'est cette fameuse troisième partie où on a Batman incarné par Damian. Et donc, il est revenu à cette histoire qu'il nous avait fait dans le Batman 666, où on voyait le Batman du futur, et c'était Damian sous le truc. Et donc, il nous le réimpose une fois de plus, et cette fois-ci, encore une fois, avec pas mal de pages. Mm-hmm. Et vu que c'est Grant Morrison, et vu qu'il a beaucoup d'influence chez DC, puisque c'est un grand scénariste, nul doute qu'un jour ou l'autre, on arrivera à Batman incarné par Damian. Et je n'aime pas ce Batman. Ça
ouais, non, mais j'en suis pas certain, parce qu'avec les paradoxes temporels, etc., ils pourront nous dire que finalement, c'est pas la réalité qu'on suit.
On nous avait toujours dit que Dick prendrait un jour la suite de Batman, et c'est le cas.
Ouais, mais c'est... Enfin, voilà, quoi. Faut quand même... Dick, c'est un personnage qui existe depuis la nuit des temps, j'allais dire. Enfin,
bien sûr.
Imagé. Mais
bien sûr, mais
il existe depuis tellement longtemps, depuis pratiquement depuis 1940, quoi.
Ouais,
alors que
ouais.
Depuis la deuxième année, je crois.
Ouais, c'est ça, 40, ouais.
Alors que Damian, c'est vraiment un ajout tout récent, et je suis pas certain, franchement, qu'on le reverra beaucoup après que Morrison ait complètement quitté le Bat-Universe.
Mais je sais pas. Moi, en tout cas, ça me gêne qu'il l'impose autant, parce qu'en plus, j'accroche pas du tout à la façon de faire. Voilà, donc vraiment ça.
Et moi c'est marrant parce que j'ai toujours pensé, surtout avec le retour de Red Hood dans les scénarios de Morrison, puisqu'on voit Red Hood, donc Jason Todd dans Batman et Robin, ouais. Et avec la mini-série Lost Years, où on voit Jason Todd rencontrer la fille de Ra's al Ghul, Talia, je me suis dit de plus en plus que peut-être un jour on allait nous révéler que Damian n'est pas au fait le fils de Bruce et de Talia, mais le fils de Jason Todd et de Talia.
C'est possible. C'est possible aussi.
Je le pense de plus en plus, et il y a de plus en plus de, comment dire, de... Ben voilà quoi, Jason Todd est vraiment en train de revenir de plus en plus sur le devant de la scène, donc ça pourrait être ça, comme ça pourrait pas l'être, évidemment. Mais voilà, c'est en tout cas, ça me conforte un petit peu dans mon idée qu'un jour peut-être on nous sortira ça du chapeau. Peut-être que Morrison le prévoit depuis d'ailleurs très longtemps.
Moi je sais que... Bon, Damian, c'est un personnage que j'ai eu vraiment du mal à accepter. Je peux pas le saquer, il m'énerve. De toute façon, je pense qu'il est écrit aussi de cette manière-là et que c'est volontaire. Mais c'est vraiment... c'est un petit con. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est un petit con.
Oui,
on a envie de lui mettre des grandes tartes dans sa face. Et là, j'arrive maintenant tout juste à l'accepter en tant que Robin, mais tout juste. Hein. Mais le voir imposer encore une fois en tant que Batman, franchement, je peux pas, quoi. Ça me passe partout et je n'aime pas ce personnage et je ne le vois pas du tout en Batman. Il n'a pas du tout la mentalité pour être un Batman. Alors c'est sûr qu'il est peut-être un peu plus sérieux qu'il l'est maintenant dans les pages que l'on voit là, mais ça reste encore un gros con. Parce que cette fois, on peut dire
D'accord.
un gros con puisqu'il est grand. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un numéro 700. Bah, je m'attendais à un truc anniversaire un peu plus, voilà, un peu mieux quoi. Pour les 75, l'année des 75 ans de décès, je m'attendais un peu mieux. Honnêtement, un petit peu déçu quand même. C'est pas mauvais, mais pas ce que j'attendais.
Oui, voilà, pour un personnage emblématique, c'est pas le comics qu'on retiendra pendant des années, à mon avis.
Et puis honnêtement, j'ai été
Juste.
surpris parce que je ne savais pas que c'était Grant Morrison au retour au scénario, j'avais pas fait gaffe. Et quand j'ai vu ça,
Moi non
quand j'ai vu
plus.
Grant Morrison, j'ai fait oh merde.
Moi non plus, je sais pas pourquoi je devais être passé à côté, j'ai cru que c'était encore. Comment dire.
Nicisa?
Non, 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 pas Nicisa, Jude Winnick, je crois que c'était toujours Winnick en fait qui se chargeait de Batman.
Ah oui, c'est
Et je
vrai.
pensais qu'il allait revenir pour ce numéro 700, puisque Tony Daniel avait fait quelques épisodes en intérim. Juste pour préciser aussi qu'il y a quand même un certain nombre d'illustrations.
Bah, j'allais en parler justement.
Ah, d'accord.
Mais non mais vas-y, continue.
Bah, il y a un certain nombre d'illustrations donc à la fin, donc des représentations de Batman
Ouais,
par
des
Tim
jolis.
Sale,
Ouais.
par Bill Sienkiewicz, par
Shane Davis aussi.
oui, Philip Tan.
Dustin Nguyen et Juan Do et Guillem Marsh. Voilà.
Voilà, donc il y a pas mal de pages de
Certaines
bah,
plus jolies
sympa
que d'autres.
quoi. Ouais. Et puis il y a aussi un descriptif. Alors là, j'aime bien, moi, je suis très friand de ce genre de petites choses là. Un descriptif de la Batcave, tu vois,
Ouais,
avec tous
avec
les
un
gadgets et
plan
tout.
tout décortiqué, ouais.
Ouais. Donc
Je sais
moi,
pas
j'aime
si tu l'as
beaucoup.
lu en profondeur.
Pas tout, non.
Ah,
Pas tout.
d'accord. Moi, je l'ai lu. Et il y a un truc aussi. Alors, je sais pas si c'est un ajout parce que je lis pas les fameux Secret Files and Origins où on a souvent ce genre de choses. Je sais pas si c'est un ajout, mais parce que c'est deux doubles pages en fait. Sur la deuxième
Ouais.
double page, en bas, on nous détaille tous les fameux sub-levels dont on nous parle que, bah, par exemple, dans le numéro 4, c'est là où il a remisé toutes les anciennes Batmobiles, les anciens Batplane, etc. Et on nous parle d'un fameux sub-level numéro 7 et écrit à côté Purpose only known to Batman. Donc en gros, l'utilité est seulement connue de Batman. Et ça, j'ai aucun doute que ça va faire une histoire. On
Peut-être,
aura une
peut-être, peut-être.
histoire sûre à être certain sur ce fameux
Ah,
sub-level numéro
peut-être
7.
bien, peut-être bien. En plus, c'est le genre de petit indice comme ça que Morrison pourrait laisser et dire, ah oui,
Alors,
bah, j'en avais parlé à tel
je dis
moment.
pas que c'est mal, hein. Je dis pas du
Non,
tout que
non,
c'est mal. Mais voilà, bon.
Eh bien, écoute, ce qui serait intéressant, c'est je sais que j'ai une. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais j'ai une encyclopédie Batman qui avait été publiée chez CEMIG, d'ailleurs, en français. Assez bien faite, assez intéressante. Je crois que c'était Chuck Dixon qui l'avait. Oh, je suis pas sûr. Bon, alors,
Je vois
compte.
de quel truc tu veux parler. Je sais pas qui est l'auteur, par contre.
Une grosse encyclopédie Batman et donc il y avait des pages et des pages de description comme ça, il y avait la Batcave totalement épluchée. Donc ce sera intéressant de voir s'il parle de la même manière en fait des différents niveaux et que c'était est-ce que ça existait déjà en fait ce fameux niveau caché est-ce que c'est peut-être un truc qui existe depuis longtemps et voilà donc à vérifier en fait je vérifierai, ce
Il
sera
faudrait
intéressant.
vérifier. Ok, bon bah, on va passer. Ah oui, alors, juste avant, pour toi, bye, check it ou pass?
Oh, check it, hein, pour qui suit Batman depuis plusieurs années, c'est quand même le numéro 700, c'est un numéro anniversaire, c'est quand même Grant Morrison, donc si vous lisez, pour le peu que vous lisiez Return of Bruce Wayne et Batman et Robin, oui, c'est définitivement un check it, voire un bail si vous êtes complétiste, voilà.
Bah. Pour moi, c'est un bail si on aime Batman, enfin Morrison sur Batman. Check it si bof bof. Et si on n'aime pas du tout Morrison sur Batman, c'est même pas la peine, on passe. Voilà, c'est simple. Pour moi, voilà, c'est simple. Oui
Non
et
mais
non, mais.
c'est clairement ça,
Ouais.
oui.
Voilà. On passe maintenant à la suite, c'est les reviews solo, et on commence avec Avengers Academy, c'est toi qui t'en occupes.
Exactement. Donc petite review, Avengers Academy numéro 1, c'est un scénario de Christos Engage, les dessins sont de Mac Macon, et c'est ancré par Cox, je ne sais pas son nom, Cox on va l'appeler. Jérémy Cox, voilà, Jérémy Cox, je cherchais. Donc c'est un petit peu la suite, on va dire, de ce que faisait Christos Engage sur Avengers Initiative, sauf que là, c'est vraiment le concept de une école pour former la future équipe de Vengeurs. Donc avec des nouveaux Vengeurs, enfin des jeunes Vengeurs, Alors certains vont dire quoi encore des jeunes vengeurs? Bah ouais, la plupart sont des nouveaux persos qu'on connaissait pas avant et qu'on nous présente là tout au fil de l'histoire, notamment par les yeux d'un des nouveaux élèves, d'une des nouvelles élèves qui s'appelle Veil. Enfin, c'est son nom de code, hein, de super-héroïne. Elle a le pouvoir de disparaître en fumée. Bon, pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais voilà, de se dématérialiser au fait.
As-tu lu le petit sketchbook qu'il y avait à la fin?
Oui, j'ai lu un petit peu
C'est
toute la
juste ce que j'ai
présentation.
regardé en fait, moi, sur le bouquin. J'ai pas eu le temps de le lire, donc j'ai juste regardé le machin. Et au niveau du sketchbook, j'ai trouvé d'ailleurs que Veil avait un design très Romita Junior en fait. J'allais dire Romitien, mais ça le fait pas.
Ouais.
Je trouvais que c'était très Romita Junior au niveau du sketchbook.
C'est vrai, il y a un petit peu de ça. Donc, alors, pour les nommer vite, il y a Striker, il y a.
Tu peux annoncer le
Ouais,
pouvoir en même temps, histoire que les gens se rendent compte.
bah alors Striker, lui, c'est. Il balance des éclairs, c'est le. Apparemment, ce serait le plus fort de l'équipe, quoi, de toute façon. Donc Veil qui se dématérialise. Reptile, qu'on connaît.
Oui, il y avait eu
Puisque.
son one shot dans Initiative.
Voilà. Donc je vais pas revenir dessus. Il y a Azmat qui au fait sa salive est empoisonnée, elle produit du poison, quoi, en fait. Donc elle est constamment sous une espèce de combinaison qui la protège et qui la
D'où le
maintient.
nom Azmat,
Voilà.
pour
Et
Azados
qui protège
Materials.
surtout les autres de son contact. Il y a Meetle. Alors Meetle, alors vraiment c'est comment dire, c'est Crâne Rouge qui a pris des amphètes, quoi, qui a fait de la muscu.
Moi aussi, dès que
voilà.
j'ai vu sa tête, j'ai fait au crâne rouge.
C'est le gros brou, ouais, c'est le gros bourrin de l'équipe. C'est un petit peu le Rock Slide, peut-être, un petit peu le gros bourrin sympathique. Et puis il y a Finesse qui est la partenaire de l'autre là, que j'ai annoncé en premier. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Lightning.
Électrique, ouais.
Du coup,
Ah,
bref.
ça fait pro, ça. Bravo.
Non mais ça fait pro, mais c'est tout ça pour dire que l'équipe est pas en soi. C'est pas l'équipe qui est, elle est pas transcendante, quoi. C'est un petit peu des clichés de ce qu'on a déjà vu. Dans d'autres séries, c'est un petit peu le syndrome New X-Men où à nouveau, voilà, c'était encore une espèce de classe pour former les futurs mutants. Bah là, c'est pour former les futurs Avengers, les profs surtout.
Justement, j'allais te poser la question, qui sont les
Voilà.
profs?
Qui sont les profs de... Eh ben alors, il y a Hank Pym,
Ouais, donc voilà,
Quicksilver.
qui a rebondi depuis. Bah, ils ont rebondi depuis Mighty, quoi.
Oui, il y en a un autre qui a rebondi. Alors, super jeu de mots, c'est Speedball.
Ouh, ouh,
Le retour de Speedball.
oh la vanne!
Voilà, t'as vu, c'était fort. Et Tigra. Tigra, qu'on voit d'ailleurs en ce moment dans les derniers numéros de Avengers
Initiative, ouais.
Initiative.
Personnage, à mon avis, que Christos Engage doit bien aimer, puisqu'il la replace ici.
Voilà. Donc, ces quatre profs ont décidé de prendre. Il y a Justice aussi, Justice des New Warriors.
D'accord.
J'ai dû l'oublier. Donc ces cinq profs, pardon, ont l'intention donc de prendre ils sont six, je crois, ces six élèves sous leurs ailes pour en faire la future équipe d'Avengers. Seulement voilà, Steve, s'ils ont été sélectionnés, ce n'est pas vraiment pour ça, au fait. Donc voilà, donc alors j'ai pas parlé du scénario vraiment dans son ensemble.
On laisse
Disons
quelques
que
surprises quand même, quoi.
voilà, c'est du Christos Engage. Donc c'est au moins aussi sympa à lire que Initiative.
D'accord.
J'ai vraiment apprécié cette lecture. Je l'ai lu après le Batman 700, ça m'a vraiment fait du bien. Et après Nemesis en plus. Donc j'ai vraiment gardé ça pour la fin. Et c'est vraiment ce que j'ai préféré. C'est définitivement un bail. C'est définitivement une série à découvrir. C'est super cool.
Moi, tu m'as donné envie en tout cas. Franchement, je vais aller le lire de ce pas ensuite parce que
Non, mais voilà,
ça m'intéresse, quoi.
parce qu'il y a vraiment un cliff à la fin. Voilà, tu te dis, ah, d'accord. Et donc, vraiment intéressant. Ma seule crainte avec ce type de série, c'est que, encore une fois, ce soit le syndrome Initiative, ce soit le syndrome New X-Men, Academy X, etc. C'est-à-dire que c'est des personnages, ou Young X-Men d'ailleurs, ce soit des personnages qui, finalement, disparaissent très vite de la circulation et ne soient pas assez suivis. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait que Reptile, par exemple, des anciens qu'on retrouve, quoi.
Voire même qui meurt dès la fin du premier arc.
Exactement. Voilà,
Ouais,
c'est
c'est vrai.
souvent le syndrome aussi des personnages tués très vite. Donc j'espère que c'est une équipe qui fera long feu, contrairement à beaucoup d'autres. En tout cas, ça peut être intéressant. Et en tout cas, Christos Engage, encore une fois, est vraiment très plaisant à lire. Donc un bail. Voilà.
Ok. On passe à la suite. On reste dans une équipe de jeunes, mais en fait pas vraiment, puisque c'est Titans numéro 24. Au scénario, Eric Wallace, au dessin, Fabrizio Fiorentino et Mike Mayhew. Alors, le titre vient de changer de direction. Il y a eu un one-shot qui est paru il y a peu, qui s'appelait Titan Special. C'était Villains for Hire, je crois, un truc comme ça.
D'accord, oui.
Où en fait, on découvrait la nouvelle équipe de Titans, dirigée par Deathstroke, avec dans l'équipe Cheshire.
D'accord, donc c'est un petit peu les Heavy Titans, c'est un petit peu les Thunderbolts des Titans, quoi.
En quelque sorte, ouais.
D'accord.
On a Tattooed Man, on a aussi
Ouais.
Osiris, qui est revenu entre les morts après Brightest Day, et
Ouais.
je crois un nouveau personnage, en tout cas je ne la connaissais pas, Cinder, qui est un peu comme Magma des X-Men en fait, enfin des New Mutants, voilà, qui peut se transformer en une sorte de lave hyper chaude.
D'accord.
Donc, recruté par Deathstroke pour faire un contrat dans le spécial, il tuait Atom, mais pas le pas Ray Palmer, le nouveau, enfin le plus récent Atom dont j'ai oublié le nom. En tout cas, maintenant il est mort. Donc voilà. Et donc, il continue en fait de faire du business, comme il appelle ça, Slade. Et là, la mission, nouvelle mission, c'est de tuer Lex Luthor.
Ah d'accord, carrément.
Ouais,
Donc
carrément.
c'est vraiment des hors-la-loi à la Thunderbolts, quoi. C'est pas
Ouais, enfin voilà, ils font des
cross
contrats,
the
quoi.
lines, quoi, tu,
C'est
comme on dit.
vraiment des contrats, quoi.
D'accord.
Ils travaillent, bah, c'est des mercenaires, quoi. Des mercenaires, des tueurs à gages, en fait. Voilà, c'est vraiment des tueurs à gages.
Il y a toujours la série l'autre série Titan Titans.
Teen Titans, oui, bien sûr.
Teen Titans, d'accord. Donc eux c'est toujours les originaux.
Oui, bien sûr, oui, c'est toujours
Et
la même
Titans,
équipe.
donc ça a pris une autre direction en fait, en gros.
Totalement, voilà. Avec un
Ok.
nouveau scénariste, justement, Eric Wallace. Alors, bon, le premier épisode est pas mal, surtout qu'il y a un petit retournement de situation qui arrive vers la fin. L'histoire n'est pas terminée, donc à suivre dans le prochain numéro. C'est pas. Disons, voilà, l'équipe en elle-même a du mal à. Ils se connaissent pas. En plus, bon, il y a des problèmes de langue parce que par exemple, Cinder est italienne, donc elle
Ouais.
parle pas forcément un très très bon anglais, elle a tendance à parler en italien. Voilà, et on sent que Deathstroke cache des choses, ça c'est clair et net, de toute façon c'est Deathstroke, donc on connaît, hein. Il a forcément une autre motivation derrière que ce qu'il montre à l'équipe. Tattooed Man, lui, en fait, il les a tous recrutés un petit peu en les tenant, en disant bah si viens avec moi et t'auras ce que tu veux, quoi. Donc ils sont là pour un peu avoir ce qu'ils veulent, ils fonctionnent pas forcément en équipe. Certains essayent d'être du bon côté de la loi, mais finalement font ce que Deathstroke fait parce que c'est un des seuls à pouvoir leur apporter ce qu'ils ont besoin. Par exemple, Osiris veut ressusciter Black Adam et Isis. Et Deathstroke l'a promis qu'il pourrait le faire avec lui. Donc il le suit, mais il n'a pas envie d'être méchant. Mais bon, c'est un personnage assez ambigu. C'est pareil, Tattooed Man, depuis que son fils est mort, il n'a plus vraiment de but. Donc, bah voilà. Chacun a ses petits défauts et à ses motivations, et ça forme pas forcément une très bonne équipe. Donc je suis mitigé. Disons que c'est un check-it.
Ok.
Voilà. La suite, c'est Nemesis.
Nemesis, donc de Mark Millar, Nemesis numéro 2,
Of
avec au
4.
dessin Steve.
2
E de...
of 4. Ouais. Enfin,
Oui,
2
d'accord.
de 4, et tant mieux.
Et oui, d'ailleurs, je crois que c'était en 5, mais t'as raison, des 4, en 4. Les dessins sont de Steve McNiven, donc on retrouve l'équipe créative
Old Man Logan.
de Old Man Logan, oui, tout à fait. Alors, on s'était quitté avec Nemesis qui avait réussi quand même à enlever le président des États-Unis en détournant Air Force One, fallait le faire. Même les scénaristes de 24 n'avaient pas osé faire ce coup-là. Eh bien, Nemesis l'a fait et Mark Millar aussi. Bah que dire, c'est vraiment du grand guignol. Alors là, ça fait vraiment passer Kick-Ass pour un truc limite philosophique à côté, quoi. Là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je pense même que à l'avenir, si on me demande de faire une review encore, faudra me payer là ce coup-ci, hein, Steve. Faudra faire chauffer la carte bleue parce que
C'est toi qui as choisi, hein, pourtant, c'est pas
ah oui
moi.
non là c'est moi qui ai choisi. Mais si après je dois faire d'autres reviews de ce truc-là, non là c'est pas possible
De
là.
toute façon,
Si ça sort un jour en français, au secours. Bah écoute, on apprend les origines déjà de Nemesis qui sont risibles. En gros, c'est, écoute, Damian Wayne est 1000 fois plus sympathique que ce mec-là, quoi, de toute façon.
putain. Et déjà, Damien Wayne. Ça n'est pas
Ouais.
un cadeau.
Donc voilà. Et donc ça tombe bien, la comparaison est pas si bête que ça, puisque Nemesis, on le rappelle, est une espèce de version evil de Batman, selon Mark Millar, la sauce Mark Millar. Et donc ensuite, après les origines que je ne vais pas révéler, bon, on assiste encore à la traque de cette espèce de, il y a une espèce de pseudo commissaire Gordon quoi, qui est en charge de la traque de Nemesis. Et on assiste un petit peu à cette espèce de traque, à la suite de cette traque. Alors là, le gros truc, c'est que Nemesis arrive à rentrer comme dans un moulin au Pentagone, à balancer un gaz neurotoxique, comme on fait ses courses à Monoprix, quoi, tu vois, tranquille. D'ailleurs, il n'y a même pas d'explication de comment il a pu rentrer là-dedans.
Ah ça, si, on le saura pas. L'explication, elle est simple. Il est très fort.
Oui, il est très fort. Bah, c'est Bruce Wayne. Enfin, c'est Bruce Wayne. C'est censé être un pseudo Bruce Wayne. Donc voilà, donc il a ses entrées. Ou en tout cas, il les crée lui-même. alors, Millar nous ressort aussi un truc de Batman, de Dark Knight au cinéma. C'est-à-dire que la voiture de Nemesis se sépare en deux un moment et il se barre en moto.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire. C'est exactement le même visuel, c'est exactement le même gadget. C'est exactement. Il y a même l'espèce de canon devant la moto qui tire partout. C'est exactement le même truc.
Et après, il plaindra qu'il a des procès.
Là, c'est clair que c'est clair que c'est exactement la même chose. Et par contre, à la fin, donc ça se termine sur un petit moment sympathique où Nemesis se fait un peu avoir, quoi.
Tout n'est pas acheté, donc.
Oh, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est à prendre au millième degré. C'est vraiment un gros délire. Donc tout n'est pas acheté, quoi. Tu vois, contrairement à Kick-Ass qui se voulait être réaliste, là, il cherche même pas à là, c'est clairement du grand n'importe quoi. Donc, partant de là, pour du grand n'importe quoi, bah, c'est du bon grand n'importe quoi. Donc, si vous avez aimé le numéro 1, c'est un bail. Mais sinon, vous pouvez vous en passer, quoi. Si vraiment vous avez été rebuté par le numéro 1 ou si vous avez lu des reviews et vous savez que c'est pas votre truc. Vous pouvez nettement vous en passer, quoi. C'est un truc qui fait rire parce que c'est bête. Voilà.
Pour moi, c'est définitivement un pass. Hein. Ça, je n'achète même pas.
Voilà, voilà. Non, mais un bail uniquement pour ceux qui ont apprécié le premier. Et un pass pour tous les autres, hein, clairement.
Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de check-it.
Non. Bah non, non.
Ok. Allez, on passe à la dernière review, parce qu'on est déjà un petit peu short en temps, on a déjà un petit peu dépassé. Deadpool, Wade Wilson's War.
Ah, c'est scénario
numéro 1, oui, sur 4. C'est une mini-série en 4. Dwayne Swazinski au scénario, Jason Pearson au dessin et à l'ancrage. Bien, bon, alors déjà, si on n'est pas trop fatigué par le nombre de comics Deadpool qui sort par mois, ce qui est un peu mon cas, donc je me suis dit,
par
je vais tester celui-ci.
Par jour, Steve, tu minimises, là.
Ouais, je parlais du nombre de séries dans lesquelles il apparaît, en dehors des siennes. Dans celui-ci, on nous propose de voir les fameuses origines de Deadpool un petit peu revisitées avec des mystères qu'on ne savait pas, etc. Je me suis dit, bah pourquoi pas, on va jeter un œil. Bon, bah... il y a Dwayne Swarovski au scénario, donc qui fait des pas mauvaises choses, donc voilà, pourquoi pas. L'histoire, Wilson passe devant une commission sénatoriale, suite à une espèce d'église ou de je sais pas quoi qui a brûlé, faisant pas mal de morts, dont quelques enfants. Et il explique qu'il a fait au sénateur qui préside cette commission, qu'il a fait partie d'une équipe de mercenaires top secrète qui s'appelait juste X. C'était le nom, X.
D'accord.
Et donc dans l'équipe, quand même, hein, parce qu'il y avait du beau monde, on avait Bullseye, Silver Sable et Domino.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ok, voilà. Donc
et c'est assez étrange puisque ça, par exemple, quand Domino rencontre Deadpool, on les a vus se rencontrer récemment.
Ah mais si, pourtant ils étaient déjà, ne serait-ce que dans X-Force au tout début, on voyait bien qu'ils se connaissaient. Donc
Ah d'accord. Donc ouais, d'accord. Ok.
Non, X-Force, la première série, je parle.
Ouais, d'accord. Ouais. Celle des années 90. Voilà.
Domino d'ailleurs que l'on voit au tout début et aussi à la fin dans une prison qui est cachée dans une prison secrète, borgne en plus, et dans un fauteuil roulant. Donc pourquoi, comment, avec un garde qui l'abuse un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire autant physiquement que mentalement.
D'accord.
Et apparemment, vu ce qu'il sous-entend, il l'a déjà aussi violé. Mais ça.
C'est sympathique comme tout ça, dis donc. Bien.
Bon, je sais pas, moi c'est assez bizarre. On les voit faire une mission au Nicaragua, il explique une mission au Nicaragua, donc c'est du Deadpool, hein, c'est-à-dire qu'il parle, en même temps il y a les bulles, et puis il se parle à lui-même, il raconte des choses, enfin, bon, c'est du Deadpool. C'est pas aussi comique que par exemple ce que fait Daniel Way,
Ah bah ça a pas l'air d'être la franche marade là, ce que tu me racontes.
Oh, quand même, si, parce que bon, Deadpool est bien déjanté, et puis bon, avec un mec comme Bullseye dans l'équipe, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est lui le narrateur principal de l'histoire, donc il y a cette touche comique. Moi, je sais pas, l'impression que j'en ai, c'est assez bizarre. Je sais même pas si j'irai voir le deuxième numéro pour essayer de comprendre. Je suis voilà, c'est du Deadpool, quoi. Enfin, c'est du Deadpool, c'est le Deadpool d'aujourd'hui, c'est-à-dire un trop-plein Deadpool avec 5 ou 6 séries mensuelles, on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, tout le monde a gueulé sur Wolverine pendant des années. Ah, ça y est, ils ont calmé Wolverine, ils ont mis Deadpool. Finalement, on se demandait si on préférait pas Wolverine. Voilà. Donc, je
Non.
dirais, c'est un check-it pour les gens qui aiment le personnage et
Oui.
qui ont envie de voir ce que ça donne fouet par Swazinski, sinon c'est un pass. Parce que, en tout cas, pour le premier numéro, on n'apprend absolument rien, à part le fameux nom de cette équipe et qu'ils ont fait une mission au Nicaragua en 83.
D'accord.
C'est tout.
OK.
Donc, au niveau des origines, on n'apprend rien de plus, pour le moment. Le seul truc qui m'intéresse un peu de savoir, c'est peut-être cette histoire de Domino, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle a un œil crevé, enfin en tout cas un pansement sur un œil, qui lui manque un œil, et pourquoi elle est en fauteuil roulant. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse réellement. Donc
Ok.
finalement, pour un truc sur Deadpool, c'est dommage.
Ouais, c'est sûr.
Voilà.
Donc
Donc
bah voilà.
check it ou pass.
Ok.
Pour moi, ça penche plus sur un pass, mais pourquoi pas check it. Voilà, avant de se quitter, puisque là on a vraiment dépassé le temps, on avait une question de Sam331 sur le site dans les commentaires, qui demandait si on pourrait pas faire des reviews de TPB sur les dans nos émissions VO. Alors, bon, TPB, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Trade Paperback, c'est-à-dire une collection en fait de 5-6 épisodes, enfin d'un arc quasiment au complet, qui sort à peu près 6 mois plus tard. Et qui reprend tout dans un seul bloc. Bon alors, les TPB, honnêtement, non, on n'en fera pas parce que bah, vu qu'on fait des reviews de numéros solo, on va pas essayer, on va essayer d'alterner un petit peu les séries, qui soient pas toujours les mêmes qu'on traite de mois en mois, mais ça va dépendre aussi de la qualité des sorties, bien évidemment, et puis des séries qu'on suit nous aussi. Donc les TPB, il y a peu de chance, à moins. Peut-être qu'on ait des semaines super légères, qu'on pourrait mentionner peut-être un TPB et revenir rapidement, mais très rapidement sur un arc. Mais faut pas compter dessus, quoi. Voilà. Quelque chose à
D'accord.
ajouter, Benny?
Bah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que les TPB, bah voilà quoi.
Bah, vu déjà qu'on prend les singles, de toute façon, c'est con pour nous d'acheter des TPB en plus, quoi.
Donc
Voilà.
voilà, y a pas d'intérêt pour nous bon, on essaye surtout de traiter vraiment les comics, en tout cas en VO au moment où voilà quoi, où ça sort. Donc traiter un TPB, d'autant qu'on risque de parler de certaines choses en VF.
Oui, et puis même qu'on aura sûrement abordé un, voire peut-être deux numéros tout au long des semaines, le temps que le TPB sorte.
Voilà.
Donc bon, mais c'est possible si vraiment la semaine est vraiment légère ou qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant ou aucune série que l'on suit, qu'on en parle en fait, qu'on parle de la sortie d'un TPB qui doit sortir cette semaine-là, en tout cas. C'est pas à exclure, mais c'est très très peu probable. Voilà. C'est tout. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser les commentaires sur le site. Vous pouvez nous envoyer vos mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Vous précisez, si possible, dans quel podcast vous voulez qu'on vous réponde, soit Comic City, soit Comics Weekly, pour juste la simplicité pour nous, pour y répondre. Et puis, comme d'habitude, sur Facebook, sur Twitter, et sur iTunes.
Voilà, on est là, et puis on est à l'écoute si vous avez même des suggestions aussi, des attentes à nous faire parvenir.
Peut-être des séries que vous voudriez dont on parle, ou des voilà. Enfin, on essaiera autant que possible de répondre à la demande. On promet pas non plus parce que s'il y a certaines séries que l'on n'achète pas, on n'a pas un portefeuille extensible, donc on va
Oui, voilà, c'est
forcément
surtout ça, il y a
trop
des
se
impératifs
permettre. Voilà.
économiques qui nous restreignent un petit peu, mais bon.
Mais on essaiera de faire au mieux en tout cas pour répondre aux attentes. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly avec les sorties de la semaine numéro 20. Ce sera la semaine numéro 24.
Voilà, main bat chain, main bat heure.
Ouais. Et on se quitte avec un nouveau générique final.
Attention, chef-d'œuvre.
Qui fleure bon, là aussi, les États-Unis. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.
Ciao, ciao!